Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, avec Pascal Duprat, Fred Weiss et Jérôme Pineau. Ce matin, première heure en grande forme. T'as repris des vitamines, Christophe, c'est bon? Après ça,
je suis
menti.
Ouais, ça va.
Je peux te dire, avec ce qui s'est mis, ouais, t'as pas le lâcher tout de suite. On est tranquille jusqu'à ce soir, au moins. Là. Christophe, un petit déj, on appelle ça un.
C'est un spécialiste en la matière qui vous parle.
Ouais. Bon, vu du profil, c'est pas faux.
Non, mais pour se remettre bien, pour attaquer la compétition, tu vois ce que je veux dire.
Est-ce que vous êtes du genre, tiens, avant les fêtes, comme souvent on mange un peu trop, à essayer genre les jours avant,
pas du tout,
calmer un peu quoi.
Ça commence quand les fêtes,
genre le jour après, depuis 3 semaines, salade verte pendant 2 semaines avant quoi. Non, Pascal rigole, donc c'est-à-dire que c'est pas le cas du tout.
Moi, c'est plutôt les jours après, moi. Les jours avant.
Ouais, parce qu'après, tu sais, t'es pas
le
bien.
Le dry January, dure deux jours.
C'est quoi? Vous avez déjà vos menus du réveillon? Vous savez ce que vous allez manger? Pourquoi quoi? Il y a du foie gras?
Oui, évidemment, fruits de mer, foie gras, la base.
Ouais. Parce qu'il n'y a pas une fondue savoyarde quelque part, le 25 par exemple?
Certainement une. en fin de soirée.
Et pour moi, je ne sais pas du tout. Hein. C'est pas moi qui décide, donc je sais
pas. C'est pas toi qui décide.
Évidemment que non.
Ouais. Vous avez vu, parce que quand vous entendez Fred comme ça, vous avez l'impression que c'est un dictateur qui impose ses choix, alors qu'en fait, rien du tout.
Il ne parle pas du tout la culotte.
Ça, c'est clair.
Rien du tout. Tu mangeras du poisson aujourd'hui, demain, après-demain. Ok, d'accord.
Okay.
Pas de soucis.
Je ne suis pas conflictuel, moi.
C'est vrai.
Par ici, quoi.
À Limoges, vous mangez beaucoup de poisson, c'est un grand
poisson. Oui, c'est notre spécialité, le poisson.
Évidemment. Les huîtres de Limoges.
Les huîtres, évidemment.
Ouais. Huîtres, tout ce qui est fruits de mer.
Fruits de mer, en général, oui.
D'ailleurs, il y a les grandes marées annoncées, tu vas.
Attention, parce que le temps change à cause de ça.
C'est ça.
Ah, mais tu sais que, rappelle-toi, quand on était allé au Havre pour le départ de la Transat Café Laure, Fred était dans son élément. Le pied marin.
Il avait trouvé des balles de mer à
quai. Il avait trouvé des bottes à
Tata. Il nous disait.
Il me disait, les gars, non, ça c'est un IMOCA, s'il vous plaît, soyons précis sur les mots.
Allez,
il a demandé à monter bon d'ailleurs sur un des IMOCA, le capitaine n'a pas voulu. Hein. Non.
Ouais, il dit, non, on va peut-être pas démater avant de partir,
ouais, c'est ça.
Quand même risque pas l'idée.
Déséquilibrer la bête.
Vous pouvez retrouver la première heure en podcast sur toutes les plateformes. Évidemment, vous êtes un million à nous suivre chaque samedi, donc continuez à nous écouter. On est ravis
dans un instant. Aujourd'hui, il y a un million là.
Non, là, juste entre 9h50 et 10h. J'ai compté. Ça prend un petit peu de temps, mais j'ai gagné en efficacité avec le temps. Dans un instant, Marc Madiot sera notre invité. Je le disais, Marc qui ne va plus être le manager général de l'équipe Groupama FDJ. C'est l'équipe qu'il a fondée il y a près de 30 ans. Donc c'est une page qui se tourne. Il va être président de la structure désormais. Il s'éloigne un petit peu du sportif. On va en parler évidemment avec lui dans quelques instants. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, vous pouvez remporter votre aspirateur Cyclomax R15, station signée Easy Clean.
R15, on attend le R16 bientôt.
On attend mais le R15 il est super bien toujours. Parce que
la
est bien
la R16. Moi ça me rappelle une bonne vieux temps la R16. Je peux dire ça sévère aussi.
La bouche de la
R16. L'aspiration
du R15, elle est, je vous rappelle.
Cyclonique.
Ah, mais ça change tout.
Mais bien sûr, et pas cyclique, ça n'a rien à voir. Cyclonique.
Pour remporter votre aspirateur EasyClean, appelez le 3216, touche 4, ou envoyez sport au 732-16. Sport au 732-16. En plus, c'est un super cadeau de Noël, franchement.
C'est un bon nom, le mec a produit ça, c'est un génie, EasyClean.
Facile à nettoyer.
Facile,
voilà. Au cas où vous avez fait espagnol LV2.
Traduction.
Georges, oui. Tu dis que c'est un super cadeau de Noël.
Traduction. Ouais, tout à fait, ouais. T'es pas d'accord?
Pourquoi ton épouse?
Non mais moi j'ai basculé.
C'est aussi sexiste que ça.
Je peux vous raconter ma vie. Moi j'ai basculé dans l'aspirateur sans fil il y a quelques mois. C'est un vrai plaisir désormais.
Ah ouais, bien sûr.
Avec la petite lumière et tout, la dorade
connectée.
Ah mais c'est la folie.
Mais ça nous décline, j'espère.
Programmable.
Bien sûr. Non mais tu sais, il y a plus.
Mais le R15 ou le R14?
Il y a plus à appuyer pour réenrouler le câble et tout machin.
Ah oui, t'en étais là.
Changer les sacs et tout. Non, mais c'est bon, c'est terminé tout ça, les gars. On est passé au nouveau siècle. Allez, d'abord, les amis.
En 2025,
on est sur une grande digression quand même. Et là, sans transition, c'est Dallas à l'OGC Nice.
Un coup d'aspirateur sur l'OGC Nice.
RMC, le ring des GG.
Je veux
besoin de faire d'autres projets. C'est un choix très réfléchi, très serein. Et puis un autre objectif, je m'étais fixé, c'était de dire, à un moment, je passerai la main à des gens plus puissants que moi et qui ont la capacité à amener le club beaucoup plus haut.
Centre de Mathieu Hudol, tête d'Antoine Edouard, centre de Mathieu Hudol, tête d'Antoine Edouard, centre de Mathieu Hudol, tête d'Antoine Edouard. Ça fait 2-0. C'est pas juste, mais c'est le haut niveau.
Il y a eu des débordements, des crachats, des coups de poing ont été donnés, des coups de pied aussi. Jérémy Boga et Terem Moffi ont été notamment les principales cibles des supporters.
On va peut-être revenir, hein.
Donc, on sait jamais.
Non. Moi, je reviens pas.
C'est terminé. Victoire 1-0 des Portugais ici à Nice grâce à Pau Victor, buteur en première période. Pas de sortie de crise donc pour les Niçois. 8e défaite consécutive tout de même, pire série de l'histoire du club.
On est là avec Maurice tous les deux parce que le club est en difficulté en ce moment. On est conscient avec Maurice que le mal est profond et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Ah oui, là c'est effectivement un nouvel épisode tous les jours. Nice part dans tous les sens depuis plusieurs semaines. On en est même à 9 défaites consécutives désormais. Des supporters qui n'en peuvent plus. Un directeur sportif, Laurent Maurice, et des joueurs pris à partie. Deux d'entre eux qui ne veulent plus jouer au gym, Jérémy Boga, Terem Moffi. Il y a eu le faux départ de l'entraîneur Franck Hez il y a quelques semaines. Hier, il y a eu le vrai départ du président directeur général Fabrice Boquet, remplacé par un duo d'anciens présidents de Nice, Jean-Pierre Rivère et Maurice Cohen, désormais président et vice-président délégué respectivement. Les Aiglons reçoivent Saint-Etienne demain à 14h45 à huis clos en 32e de finale de la Coupe de France. Les GG, je vous pose la question ce matin. Nice est-il en perdition? J'ai deux oui avec Jérôme et Fred, et j'ai deux non avec Pascal et Christophe. Vous votez sur le compte X des grandes gueules du sport. Évidemment, on vous donnera le résultat tout à l'heure pour voir qui vous a le plus convaincu. Supporter niçois, on vous attend au 32-16. Tiens, Christophe, toi tu dis que non, Nice n'est pas en perdition.
Alors, déjà, juste un petit aparté, c'est sympa parce que ça fait 10 ans que j'espérais qu'on fasse des débats sur le GC Nice. Là, on en a eu 2 en 3 semaines. Donc, merci finalement. C'est bien parce que sportivement, quand il marche, on n'en parle pas. Mais quand c'est un peu la zone, on en parle. Évidemment, c'est comme ça que ça se passe.
Non, mais vous rendez compte ce populiste quand même. C'est incroyable. Populiste de pacotille. Mmh. C'est incroyable.
Je rêve de faire des débats sur le GC Nice depuis des années, mais on attend effectivement qu'il soit.
Je signale qu'on ne parle pas souvent des clubs en perdition. C'est parce que c'est Nice. Que sinon, on ferait un sujet sur Nantes toutes les semaines.
Hein. Non, mais je te parle.
On a parlé de Lens il y a 2 semaines.
Ça veut dire
Lens
que Nice a été performant. Ouais. Mais malgré tout, on n'en a pas suffisamment parlé, je suis d'accord, avec voilà. Christophe.
Voilà. Oui, mais enfonçons-les maintenant.
Ils ont arrêté de faire. On attend que le torchon brûle.
Nous revendiquons. Alors, je ne vais pas dire que la situation est toute rose, que tout va bien, que c'est la fête sur la promenade des Anglais, que la place Masséna est en train de préparer les grosses têtes pour le carnaval. Non, effectivement, la situation est très compliquée. Mais je pense que la décision qui a été prise hier va plutôt dans le bon sens. D'abord parce que ce Fabrice Boquet, je ne trouvais pas très légitime. Il est arrivé dans les valises de River, il a été mis en place, il n'a pas assuré, il n'a pas été là où il fallait, au moment où il fallait.
Donc, c'est important ce que tu viens de dire, je te coupe 2 secondes. Il est arrivé dans les valises de River.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Et qui a été nommé hier?
River.
Ok.
Oui, mais River l'a mis en place.
Et il a perdu ses valises et il est revenu en
place. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas l'homme de la situation. Je veux dire, pour diriger ce club, pour être, et je pense qu'il faut être du Serra, il faut connaître la ville, il faut connaître la mentalité des supporters niçois, il faut connaître les enjeux politiques des uns et des autres. Et s'il y en a un qui est bien placé de ce côté-là, c'est quand même Jean-Pierre Rivère. Surtout qu'il s'est associé.
Il est sur la liste municipale de Eric Ciotti.
Ça peut aussi poser des problèmes. On en parlera tout à l'heure.
Ça va poser des problèmes.
C'est déjà en termes d'image.
Il s'est aussi associé à une autre figure emblématique de l'OGC Nice, qui est Maurice Cohen. Qui est un garçon qui est arrivé, qui a dirigé le gym pendant 7 ans, alors que le club était au plus mal. Il est remonté en première division et il l'a amené tout en haut. C'est un garçon humble, sympa, qui est très apprécié là aussi des Niçois, des supporters, et pas que des supporters. Donc je pense que c'est un duo qui peut fonctionner parce qu'ils connaissent ce club parfaitement. Maintenant, le deuxième avantage, c'est que Jean-Pierre Rivère a garder l'oreille du de l'actionnaire. Jim Radcliffe,
il a vendu
le GC Nice à Radcliffe. Radcliffe a mis 400 millions aujourd'hui, il en faut. Aujourd'hui, il faut des thunes et je pense que River est le seul à même encore de faire comprendre à la famille Radcliffe qu'il faut rajouter au pot, autrement ils vont tout perdre l'investissement. Donc je pense que c'est une bonne chose. Le seul truc, tu l'as dit, c'est effectivement la prise de position politique de Jean-Pierre River
et l'actionnaire Christophe, j'en reparlerai. L'actionnaire, ils savent pas où ils vont. Je suis désolé. Mais Ineos est en train de faire.
Pour l'instant, il n'est pas question de remettre de l'argent au pot.
L'actionnaire a demandé à River de revenir en place.
Alors tiens, on va l'écouter justement. On écoute Jean-Pierre River justement parler de son retour hier. Christophe, on écoute Jean-Pierre River.
On est là avec Maurice tous les deux parce que le club est en difficulté en ce moment. Il y a trois jours, je suis allé voir Jim Radcliffe, j'ai demandé un entretien en tête-à-tête. On a passé deux heures où on a fait un peu l'état du club, de ce qui se passait, comment on pouvait s'en sortir, parce que on est conscient avec Maurice que le mal est profond et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Avec Maurice, on a l'amour de ce club, on a l'amour de cette ville. Et aujourd'hui, on n'a pas de baguette magique avec Maurice. On a une énorme volonté. Dans les moments difficiles, on avait un slogan, ma famille, mon Jim, ben faut être là. Donc avec Maurice, on vient bénévolement, mais on ne pourra pas tout faire tout seul. Je comprends la colère, la déception, tout ce que peuvent ressentir l'environnement du club qui est aujourd'hui extrêmement trouble. On comprend tout ça. Mais l'amour d'un club, on ne le perd jamais.
Voilà, Jean-Pierre River qui donc est allé voir en tête à tête les patrons d'Ineos pour revenir. Fred.
Oui, alors je suis pas surpris que ce soit Christophe Cessieu et Pascal Duprat qui soient pour ça. Évidemment, deux anciens.
Non mais c'est vrai que
toi, une émission.
Tu connais l'environnement de
l'OGC. Autant pour moi. Évidemment, ils sont sentis concernés.
Le mec croit que la croisade, c'est à Nice. Il parle de qu'est-ce que tu connais.
Alors, contre Cannes, j'ai eu la chance de monter les marches de Cannes. Je sais que c'est
exactement. Excusez-moi,
que deux anciens pensent que les anciens peuvent aider qu'un club à s'en sortir, c'est une évidence. Après, il faut quand même constater des réalités. Et quand je parlais d'image, et Pascal a voulu me tomber dessus directement, je parle pas d'image de la personne. Je dis simplement que quand tu te présentes à des municipales, ton temps de parole est compté. Donc ça veut dire que
il a décidé de ne pas parler dans les médias pendant 10 jours.
Et donc c'est un petit peu compliqué. Ça complique un petit peu quand même le.
Pourquoi c'est avec les médias que tu ressors et que tu fais revivre
le club. Alors, vu comment ça se passe actuellement à Nice, je pense qu'il va falloir parler dans les médias un petit peu. Hein, parce ouais, que quand tu vois des trucs, que ce qui se passe à Nice, c'est le cirque, etc. Je pense qu'il va falloir aussi retourner l'image.
La solution envisagée par tous les clubs qui sont en crise de.
Non, mais je pense pas. Dans tous les clubs, il y ait des affiches critiquant le cirque de Nice, en fait.
On n'a jamais vu un club en crise s'ouvrir aux médias pour essayer d'arranger la situation.
Mais
je ne sais pas où t'as vu ça, peut-être en NBA, mais
l'image de Nice est un peu écornée en ce moment, tout ce qui s'est passé.
Elle est plus qu'un peu écornée. Il va falloir parler un petit peu aux médias, il va falloir un petit peu aussi endiguer ça. Après, sportivement, en quoi ils vont être meilleurs, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter de plus, ces deux personnes?
Ils vont perdre 3 joueurs majeurs. Ils vont perdre 3 joueurs majeurs,
donc je vois pas à quel moment.
Mais là, c'est les joueurs qui sont en première ligne.
Les premières. Alors déjà, parce que quand t'as deux anciens comme ça qui ont donné autant pour le club, ça met encore plus de pression aux joueurs. Donc forcément, parce que tu dis que les deux là sont des symboles, des icônes un petit peu.
Et parce qu'ils n'ont rien à faire. Les deux présidents qui reviennent. Mais on dit c'est en mission commando.
Surtout pour 5 mois. Ils viennent pour 5 mois, donc ils n'ont rien à perdre. Ça va mettre encore plus de pression au club. Et t'as intérêt à gagner au prochain match de Coupe de France. Hein. Tu ne gagnes pas le prochain match de Coupe de France.
C'est aujourd'hui.
Ça va être plus piquant.
Demain contre Saint-Etienne. Pascal. Alors, tu fais quoi alors, Fred? C'est quoi ta solution alors, toi? Si on coupe la tête de tout le monde, on va en 3ème division. On propose des solutions, toi tu fais que casser.
Alors, pas la question.
Jamais une solution intéressante.
Non, mais il faut juste ne pas laisser parler pour rien. Parce que tu sais ce qu'il est en train de dire. Il est en train d'essayer de bouger le débat. On est en train de poser la question si le club est en
perdition.
C'est pas la question, c'est pas savoir trouver une solution. Moi, je travaille pas à Nice et je suis pas dans le club. C'est pas mon problème en fait. Je suis juste en train de constater
qu'il y a des tapés en fait. Les gars, une solution et toi tu casses la solution sans en proposer d'autres.
Vas-y. Parce que je suis pas là pour proposer des solutions.
Je
suis juste en train d'essayer d'expliquer, je termine juste sur ça, que pour moi, ce n'est pas suffisant ce genre de choses.
Pascal, pour toi, le club n'est pas en transition.
Non, pour la simple et bonne raison, c'est que ce club a une assise. Je vais prendre des chiffres. En 2018, avant que, Radcliffe rachète le club avec Ineos, le budget de Nice, c'était 45 millions. Ok, ça le situe à 10e ou 11e en Ligue 1. Aujourd'hui, c'est 140 ou 150 millions. C'est 3 fois plus de budget. Ineos a investi 400 millions depuis 2019. Donc, Ils sont puissants. Alors certes, aujourd'hui, il y a un revirement de la part d'Ineos, qui a racheté Manchester United et qui semble vouloir vendre le GC Nice. Pour autant, c'est 90 millions de masse salariale. Oh les enfants, j'ai envie de leur dire, oh les joueurs de l'OGC Nice, vous voulez pas vous bouger un peu? Parce que les salaires doivent être importants à Nice, comme doivent l'être en France.
On est d'accord avec Fred là-dessus. Il faut maintenant, c'est les joueurs qui vont être en première ligne.
Le fait que les deux présidents ancestraux reviennent au club, ça doit amener de la stabilité, ça doit rassurer les joueurs, l'entraîneur, les supporters aussi, de manière à ce qu'on retrouve une paix, on va dire, sociale. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que Jean-Pierre Rivère pour y parvenir. Donc je vois ça comme une bonne chose. Attention, le président démissionnaire, c'est pas le responsable de tous les maux, qu'on soit bien d'accord. Moi, j'ai juste un tout petit hic. Donc cette assise, elle va permettre de recruter au Mercato, ce que aussi, là, peu de clubs en Ligue 1 vont pouvoir le faire avec autant d'aisance que l'OGC Nice, parce qu'ils ont un propriétaire puissant. Si River demande, parce qu'il y a le feu, à ses actionnaires de mettre au pot, ils mettront.
Il va lui demander de vendre avant, Pascal. Okay. Il va lui demander de vendre avant.
Pas en cours de saison, alors qu'ils sont en difficulté. Il est pas fou, Radcliffe, quand même, non?
Les joueurs qui ne veulent plus jouer, à part les
vendeurs.
Tu vas pas vendre le club.
Non, mais il y en a deux qui veulent partir. Il y en a deux qui veulent partir parce qu'ils veulent plus. Apparemment, ils sont en arrêt de travail. On a respecté le fait qu'ils le soient. OK? Et apparemment, les bruits font état qu'ils ont envie de partir de l'OGC Nice. Ceci étant, moi, le seul petit bémol, c'est Franck Hez, qui a une position déterminante quant au redressement de l'OGC Nice. Est-ce que Franck Hez, que j'apprécie, qui est un superbe entraîneur, qui est aujourd'hui en difficulté, mais en fait c'est notre métier d'être en difficulté. Donc est-ce que Franck Hez est heureux, est enthousiaste, a l'énergie nécessaire pour redresser la situation? Quelquefois, au travers de ses déclarations, j'en doute un peu. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. J'ai l'impression,
Pascal,
qu'il est triste.
Je sais que c'est une confrérie et que les entraîneurs, vous êtes très solidaires et c'est une belle chose. Tu parles des joueurs qui sont très très bien payés à l'OGC Nice et qui devrait se bouger. Je pense que Franck Hez, même s'il n'est pas heureux, il est très bien payé à l'OGC Nice.
Bien sûr.
Et son départ est quand même.
C'est 49 mois à payer.
Son départ est quand même très lié à l'indemnité. Et si, même s'il n'est pas heureux, et qu'on ne lui présente pas un chèque pour partir, il ne partira pas.
Il faut se défaire de ça à un moment donné.
Donc j'en reviens au débat de base. Dans perdition, la racine du mot, c'est perdu. Il me semble que ce club est quand même très perdu actuellement.
C'est un club qui n'a plus de force vive, qui n'a plus de pognon, qui n'a plus de moyens financiers pour recruter. C'est pas le cas de l'OGC Nice.
Je sais pas comment tu vois les choses, Pascal.
L'OGC Nice
n'est
pas en perdition. Ils sont derniers, regarde le classement.
Ils sont 13e, je rappelle, à 5 points sur le premier barrage, sur le barragiste Auxerre.
Ils sont en deçà de leur standard.
Ils sont en deçà
de ce qu'on peut espérer d'un effectif comme celui-ci, parce que l'OGC Nice dispose d'un bel effectif.
Mais l'effectif, Pascal, tu l'as vu le match contre Lens, dès qu'il y a un grain de sable dans la mécanique qui peut être propre, ça déraille complet, il n'y a plus un mec qui aligne deux passes de suite.
J'ai un message à faire passer à Franck Hez, il n'y a rien de plus beau qu'être assis sur un banc et d'être en difficulté. Tu ne peux pas être triste, Franck.
Il fait partie de ces entraîneurs-là qui sont capables de redresser la barre.
C'est l'enthousiasme qui va faire que l'OGC Nice va retrouver l'enthousiasme et le calme, toutes les semaines à l'entraînement, avec des joueurs qui sont acquis à la cause de l'OGC Nice. Le président dit on aime ce club à vie, mais moi j'aimerais que les joueurs de l'OGC Nice aiment ce club. Nice. Montrez-moi que vous l'aimez.
Nice est-il en perdition? Vous êtes 85% à penser que oui sur le compte Twitter, le compte X des grandes gueules du sport. Évidemment, c'est impactant peut-être ce qui se passe actuellement à Nice. Je rappelle, il joue demain face à Saint-Etienne à huis clos en 32e de finale de la Coupe de France, 14h45 à suivre sur RMC. Le ski, ça va démarrer dans quelques instants, la descente féminine à Val d'Isère. On va vivre ça avec Léna Marjac et Sébastien Amier. Salut les amis.
Salut tout le monde.
Salut à tous.
On attend des Français et une superstar sur la piste dans quelques instants, Léna.
Oui, une superstar, mais effectivement, on a quand même 5 Françaises qui seront au départ, avec la première à s'élancer d'Ossard 3, Romane Miradoli, qui reste sur un beau podium en Super G le week-end dernier à Saint-Moritz. Il y aura également Laura Gaucher, Camille Cerruti, Garance Meyer et Loïs Abouli. Effectivement, Bastoun, la grande star, celle que tout le monde regarde, que tout le monde attend, c'est Lynn Sevon. La première fois qu'elle est venue à Val d'Isère pour une descente, c'était en 2005. On est en 2025 et elle est toujours là.
Exactement, elle revient 7 ans après pour préparer les Jeux Olympiques, mais maintenant la tâche est plus dure aussi pour elle, puisque elle gagne dès la première course, elle est là, et elle n'est pas là que pour faire de la figuration, et cette grande dame du ski fait du bien au monde du ski.
Dossard 8 pour Lynn Sevon, qu'on va évidemment scruter et regarder sur cette piste oreillée qui est parfaite aujourd'hui, avec des conditions un petit peu nuageuses ici à Val d'Isère.
On va suivre tout ça avec vous, évidemment, sur RMC Radio officielle des Jeux de Milan Cortina. On se met déjà en mode olympique. Dans quelques instants, Marc Madio est l'invité des GG. Marc qui passe la main dans l'équipe Groupama FDJ qu'il a construite depuis plus de 30 ans. Depuis 30 ans, il ne sera plus manager général. Désormais président de la structure, un peu en retrait donc du sportif et de l'opérationnel. On en parle avec lui, on lui posait toutes les questions dans les grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Christophe Cessieux, avec Pascal Duprat, Fred Weiss et Jérôme Pinault. Christophe qui prend toutes les pièces que lui met Fred Weiss dans sa machine.
Le débat continue.
Il part en quart de tour. Et ça, c'est surprenant, hein, parce que je rappelle, il est 10h32.
Calme et pondéré.
Je rappelle Pascal.
Connu pour ça. Voilà,
Pascal l'aura noté, il a surligné la phrase depuis ce matin. Je rappelle qu'à 9h, Christophe nous a dit « Je ne suis pas d'humeur belliqueuse.
» Ben, ça a vite changé.
Ça a vite changé.
Qu'est-ce que tu veux, il m'énerve le grand là.
Il a les yeux injectés de sang. On mange une clémentine, peut-être. Ça va te faire bien, j'en ai une autre. Dans un instant, le j'y crois pas. Dans un instant, Marc Madio également est notre invité. Marc, une GG, il sera avec nous d'ailleurs demain, mais qui va nous parler aujourd'hui du fait qu'il passe la main comme manager général de l'équipe Groupama FDJ, cette équipe qu'il a fondée il y a près de 30 ans. C'est une page qui se tourne, on va en parler avec lui. Il va tout nous expliquer. C'est déjà Noël hein, sur RMC, on a un jeu aujourd'hui à gagner, des MacBook Air, des vacances, des iPhones, des PlayStation 5 ou Switch 2 avec Micromania Zing et plein d'autres cadeaux à découvrir jusqu'au 24 décembre. Chaque jour, vous venez et vous ouvrez la case de notre calendrier de l'Avent. Il est juste à côté de moi, il est magnifique et c'est gagné. Donc là, vous appelez, voilà, on est quelques jours avant Noël, vous pouvez gagner un magnifique cadeau. Ça vaut le coup quand même pour jouer, envoyer Noël, N-O-E-L, au 7-32-16. Vous envoyez Noël au 7-32-16. Ça, c'est pour donc avoir de belles fêtes. On va tout de suite aller dans un environnement de montagne, la neige, tout de suite, avec Léna Marjac et Sébastien Ami qui nous attendent à Val d'Isère. C'est la Coupe du Monde de ski alpin, de la vitesse féminine, la descente aujourd'hui sur la piste Oreiller-Killy. Léna et Bastoun, on attend notre première française dans quelques instants. On va partir au départ.
Oui, Romane Miradoli avec son Dossard 3. C'est la troisième descente de la saison. La semaine dernière, elles étaient toutes ces filles à Saint-Moritz en Suisse. Et justement, Romane Miradoli était allée chercher la sixième place lors de la première descente et la quinzième place derrière. Mais c'est surtout en Super G où elle est allée chercher un podium, Bastoun. Donc on va attendre notre Française avec impatience parce qu'elles ont envie de réussir ce début de saison. Et ça y est, Romane Miradoli est dans le portillon de départ. C'est parti pour les premières poussées sur cette piste, Bastoun, qui est vraiment parfaite aujourd'hui hein, à Val d'Isère.
Oui, la piste est bonne. Les conditions sont très bonnes, il faut en profiter avec ce Dossard 3. Il y a du soleil sur cette piste, donc on ne sait pas comment la tournure va prendre, mais il faut en profiter avec ce Dossard 3.
Allez, Romane Miradoli, donc en piste, c'est la première Française des 5 aujourd'hui avec 11 petits centièmes de retard sur l'Allemande Kira Wedle-Winkelmann, qui pour l'instant a le meilleur temps de cette descente à Val d'Isère. 11 petits centièmes donc de retard pour Romane Miradoli.
Oui, sur le haut, c'est pas beaucoup, hein, 11 centièmes de retard. Là, ça augmente un petit peu, 23 centièmes de retard. Elle rentre dans une partie beaucoup plus technique, hein, le passage du téléphone. C'est bien rentré en ligne, c'est ce qui est juste. C'est maintenant qu'il faut qu'elle nous montre toutes ses qualités de super géantiste. Ça, elle sait faire. Allez, être un peu plus à l'heure sur cette trajectoire.
Avec justement ces petits sauts, donc on a eu le saut du téléphone, on aura la bosse à Emile dans quelques instants. Et la Française, on va voir au troisième temps intermédiaire, 3 dixièmes de retard, Bastoun, pour Romane Miradoli.
Oui, c'est un peu tard sur les lignes, hein. On la voit un peu hésitante sur les mises en entrée de courbe. Ça coûte un peu de temps puisqu'elle finit le virage un peu tard, mais c'est encore au contact. Le bas est important, il faut bien finir
Il faut de la vitesse, il faut de la vitesse aussi pour Roman Miradoli, mais là ça commence à faire à coûter cher parce que c'est 57 centièmes de retard maintenant pour la Française qui va arriver dans quelques instants sur la fin de cette piste.
Oui, on la voit se chercher un petit peu, hein. Je répète sur les trajectoires. C'est vrai qu'voilà, beaucoup, un petit peu de dérapage ici. Malheureusement, elle a une bonne vitesse, hein, 124 km/h, c'est pas mal. Est-ce qu'elle va reprendre un peu de temps sur le bas du parcours?
Allez, le dernier saut, la dernière difficulté de cette piste. Et on va voir Roman Miradoli passer donc la ligne d'arrivée devant le public français. Et il y a une seconde de retard. C'est donc le troisième temps pour Roman Miradoli, pour la Française, dans cette descente ici à Val d'Isère.
Très bien, enfin non, pas très bien pour la Française évidemment, Roman Miradoli, mais en tout cas on va suivre ça avec vous avec Fred, qui est toujours là pour
bravo, félicitations, c'était nul mais bravo.
C'est Fred qui encourage les sportifs français, ça fait plaisir.
On a fait les Lalous qui arrivent,
une espèce de solidarité entre les champions.
C'est ça, on a fait les
Lalous, parce qu'il y a les stars et les champions.
On va suivre évidemment le passage de l'INSEEMO dans quelques instants avec vous, Léna et Bastoun, sur la descente féminine de Val d'Isère. Ensuite, tout évidemment sur RMC, 48 jours des JO d'hiver de Milan, Cortina. Tout de suite pour nous, il est grand, il est très très grand, une grande GG et l'invité des GG.
Allez mon grand, allez mon grand, allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand, t'es très grand, allez mon grand.
Jusqu'au bout là, c'est la dernière ligne droite, la ligne droite de ta vie mon enfant, la ligne droite pour toi, pour ta famille, pour le cyclisme français, pour les Bretons, tu dois le faire, tu vas le faire,
Valentin Mérez, il a compris,
pour nous, pour nous tous, pour les Français, pour la France,
tu vas la chercher, elle est là, 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 elle est là,
elle est là, elle est.
Ah, moi, il me met les poils à chaque fois, dans n'importe quelle situation, au commentaire. Il dirige l'équipe qu'on appelle là aujourd'hui Groupama FDJ depuis près de 30 ans. Marc Madiot va passer la main. Il ne sera plus le manager général de l'équipe. C'est Thierry Cornet qui arrive en 2024 qui va récupérer ses responsabilités. Et Marc va devenir président de l'équipe française, plus éloignée de l'opérationnel et du sportif. Pour beaucoup, on le lit depuis ce matin. C'est une page qui se tourne, peut-être un peu la fin d'une ère dans le cyclisme français. Marc Madiot, notre invité ce matin. Salut Marc.
Salut les amis.
Salut Marc.
Salut Marc. Bon, Marc, il faut que tu nous expliques. C'est vrai, on voit déjà beaucoup de réactions ce matin après cette information. On a lu que tu passais la main, que c'était la fin d'une ère, peut-être. Effectivement, comment est-ce que tu veux décrire toi cette situation, donc de ne plus être manager mais président aujourd'hui?
Bon, les choses se sont mises en place progressivement depuis 2 ans avec le nouveau contrat qu'on avait re-signé avec Groupama FDJ. Il était convenu ensemble que l'on mette en place la suite, la succession et la continuité de l'équipe pour lui permettre d'aborder les prochaines saisons avec les moyens et les capacités d'être très opérationnel. Donc c'est ce qui s'est fait progressivement au fil des derniers mois et de la dernière année. Donc on est dans la logique et dans la continuité. On s'installe dans un nouveau schéma, mais la vie d'une équipe est ainsi faite. Quand j'ai démarré en 97 et ce que l'équipe est aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Même si les titres ne changeaient pas, il y avait quand même des évolutions. Donc on est dans une continuité qui s'installe et un renouveau et une relance pour aller chercher de la compétitivité et des moyens d'être compétitif pour la suite.
Marc, c'est une décision qui t'a été imposée ou que tu as prise toi-même en concertation avec tes sponsors, c'est-à-dire Groupama et FDJ, ou est-ce qu'on t'a dit, bon Marc, il faut maintenant passer la main? Comment ça s'est passé?
Bah, ça s'est passé de la façon suivante, on a réfléchi à la suite et puis progressivement les choses se sont faites de manière limpide et il est le bon moment pour changer et je suis ce matin... je me faisais la réflexion, je suis beaucoup plus tranquille que par le passé ou que je ne l'étais encore il y a quelques semaines. Donc je pense que si on veut opérer la transition dans de bonnes conditions et être opérationnel pour le développement de l'équipe, il faut passer par là et je suis beaucoup plus détendu que je ne l'étais il y a quelques semaines ou mois, tout simplement par le fait que je n'aurai plus la responsabilité quotidienne de l'équipe et c'est quand même un fardeau qui est stressant et parfois lourd à porter. Et donc, de se consacrer à autre chose pour le bien et le devenir d'équipe me va très bien.
Marc Madieu, notre invité ce matin, il ne sera plus donc manager général de l'équipe Groupama FDJ, cette équipe que tu as construite depuis près de 30 ans. Marc, c'est quand même pas une séquence neutre pour toi. Émotionnellement, c'est ton bébé. Cette équipe, on parle de voilà d'être un peu plus éloigné du sportif et de l'opérationnel. Comment toi tu le vis? Tu dis voilà je me sens un peu libre, peut-être un peu soulagé.
Temps,
c'est toi dans le cœur. C'est toi qui es beaucoup dans le cœur, dans l'émotion. Qu'est-ce que t'as là?
Je revis un peu ce que j'ai vécu quand j'ai arrêté de courir. Ma dernière course, c'était Paris. Mentalement, ma dernière vraie course, c'était Paris-Roubaix en 94. J'ai fini à l'hôpital. J'étais sur mon lit à l'hôpital avec une fracture du trochanter. Mon frère et Alain Galopin sont venus me chercher à l'hôpital de Valenciennes. Ils pensaient me trouver effondré. Et en fait, c'était tout le contraire. J'avais bouclé la boucle. Roubaix m'avait tout donné et était en train de tout me reprendre. Pour moi, c'était un signe du destin. Il fallait passer à autre chose. L'autre chose, ça a été la création et le développement de l'équipe. Et là, j'ai la même sérénité pour la suite. C'est-à-dire que je suis arc-bouté et dans les starting blocks pour le nouvel épisode qui se présente devant nous, qui va être un challenge extrêmement difficile si on veut avoir de la compétitivité au niveau mondial par rapport au développement du cyclisme à l'international. Donc, j'ai de quoi m'occuper et de quoi me mobiliser et je ne suis pas en manque de motivation.
Bon, Marc, tu sais que tu es face aux grandes gueules du sport, tu seras avec nous autour de la table demain. Oui. Fred Weiss, poser une question.
Marc, moi je me pose la question de savoir, toi qui es un homme qui est extrêmement romantique, qui voit le sport de façon très romantique, est-ce que à l'heure
dans l'humain,
tu vas voir les gens directement, maintenant il y a les agents, etc. Est-ce qu'on peut encore pratiquer ce métier en étant aussi romantique en fait?
C'est difficile. C'est très difficile parce que on n'est plus dans la même dimension d'équipe. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 18 coureurs, on était une douzaine d'encadrements autour. Donc, le rapport humain était forcément différent. On a évolué. Aujourd'hui, on est 120, mais il y a des équipes qui sont 150 ou 160. C'est plus le même schéma de fonctionnement. L'émotion et l'humain, c'est forcément différent, il y a une évolution. Après, de temps à autre, on peut encore trouver des moments d'extase et de partage humain, bien évidemment.
Jérôme, quand t'as appris la nouvelle, tu t'es dit, putain, Marc, quand même, c'est le cyclisme français là qui n'est plus manager.
En 15 jours, pour un coureur comme moi qui est d'une génération précédente, ces messieurs, ces grands messieurs que sont évidemment Marc, mais aussi Jean-René Bernodeau, sont des personnages pour moi centraux du cyclisme. Aujourd'hui, de savoir que ces deux-là passent la main d'une façon complètement différente, j'approuve pour Marc, un peu moins pour Jean-René, c'est pour moi un tournant, mais un tournant incroyable dans notre sport actuel. C'est-à-dire que, d'une part, c'est la fin de ces personnages-là légendaires, avec tout le respect que j'ai pour Marc, et il le sait, de ces moments-là, de ces mecs-là, de ce cyclisme-là aussi. C'est ça qui... Il y a un côté qui me rend triste et l'autre qui m'inquiète.
Ça t'émeut un peu presque.
Bien sûr, ça m'émeut parce que quand je suis arrivé dans ce milieu-là, ces gens-là étaient incontournables. Il raconte très bien, Marc, dans l'équipe ce matin, il dit, avant, quand j'allais voir Philippe Gilbert chez lui, il avait envie de voir Marc. J'ai fait partie de ces coureurs qui ont été en contact avec Marc pour signer chez lui. Rien que de voir Marc Madiot, c'était quelque chose. Et quand il raconte qu'aujourd'hui, il y a des gamins qui lui disent, faut voir avec mon agent, je suis carrément effondré, quoi. Je me dis, c'est pas possible que mon sport soit devenu ça, parce que effectivement, comme le dit Marc, il faut voir autre chose, et Marc va être là pour aller promouvoir son équipe et vendre aux sponsors. Mais Marco, est-ce que t'as pas peur que tout ça, finalement, ça soit un peu éphémère, parce qu'on reste sur un système économique très fragile et que la tronche de la FDJ, c'est toi, quoi. Il y a pas, il y a que toi qui peut. Enfin, c'est ton équipe. Demain, j'ai besoin d'un contact là-bas. Je t'appelle toi. La presse a besoin de parler à quelqu'un, c'est toi. Un coureur veut venir chez toi parce qu'il n'a pas d'agent, parce qu'il aime son sport, il va t'appeler toi. Il ne va pas appeler, je ne connais pas Thierry Cornec, mais il ne va pas appeler Thierry Cornec. La Groupama FDJ, c'est Marc Madiot.
Bien sûr. Marc.
Oui, bah, c'est très simple, je donnerai le numéro de Thierry. Je participerai à tout ça. Non, non, moi, je suis pas tout à fait sûr. On pourrait, à première lecture, on pourrait dire, ouais, c'est la fin d'une époque, c'est la fin de ci, c'est la fin de ça. D'abord, la vie continue et elle ne s'arrête jamais. Ça, c'est le premier point. Moi, mon objectif, et c'est ce que j'ai déclaré à vos confrères de l'équipe, moi, mon objectif, il est simple, c'est que l'équipe survive et continue. Ça, et c'est vrai dans une période charnière en termes d'économie et de fonctionnement du sport, notamment dans le cyclisme, et il faut s'adapter à la situation sous peine de disparition. Donc je pense que je vais être utile, enfin du moins je l'espère, je vais être utile dans la continuité et dans le développement de cette continuité. Et le faire en ayant un peu plus de recul par rapport aux sportifs, je pense qu'au contraire c'est un atout supplémentaire qu'on se donne pour fonctionner dans l'équipe. Je pense que je peux peut-être modestement apporter plus dans cette nouvelle phase.
Marc, tu sais comment ça se passe dans la grande gueule du sport. Marc Madiot est avec nous. On a un direct en ce moment. Il y a le passage de Lindsey Vonn sur la descente féminine de Val d'Isère. Léna Marjac et Sébastien Amier sont sur place. On va vivre ça avec vous. Une légende, une star, une superstar sur la piste française, les amis.
Une superstar, ça c'est sûr. 41 ans, 83 victoires en Coupe du Monde, dont une la semaine dernière lors de le début de saison à Saint-Moritz. Elle a un petit centième de retard pour l'instant. Premier temps intermédiaire sur l'Allemande qui Wedle Winkelmann qui a toujours le meilleur temps de cette descente ici à Val d'Isère, et 22 centièmes maintenant pour Lindsey Vonn, pour l'américaine, 22 centièmes de retard.
Oui, c'était au contact sur la partie glisse, un peu en délicatesse à l'entrée du téléphone. Après, sur la partie où elle arrive maintenant, c'est là où elle sait faire sur ses courbes de Super G, mais c'est toujours en délicatesse hein. Vraiment sur le ski intérieur, c'est pas une ligne juste pour l'instant.
Elle s'est fait un petit peu bouger Lindsey Vonn, l'américaine, aux 83 victoires. Elle s'est imposée ici déjà 4 fois en descente, et 2 petits centièmes maintenant de retard pour l'américaine qui revient. Bastoun,
mais il y a la vitesse, c'est l'essentiel. C'est pas beau techniquement, mais en tout cas ça va vite, c'est ce qu'on en veut en ski, c'est ce qu'on recherche en ski. En tout cas Lindsey, c'est une piste qu'elle aime, qu'elle affectionne, et c'est 13 centièmes d'avance maintenant.
Elle allume du vert l'américaine, parce qu'aussi elle a fait des règlements. Des réglages sur ses skis. Attention, parce que là elle est sortie très très large, 114 km/h pour l'américaine qui a de la vitesse, mais potentiellement va perdre un petit peu de temps. Bastoun,
oui, je crois qu'elle a perdu le bâton dans la compression. Elle a mis du temps avant de reprendre, mais elle est toujours vite, elle est toujours en avance.
Elle est au dernier saut, 11 centièmes d'avance pour Lindsey Vonn, pour l'américaine. La dernière porte, elle va passer la ligne d'arrivée avec 9 petits centièmes de retard. Elle est donc deuxième pour l'instant, Lindsey Vonn, derrière l'allemande Kira Wedle Winkelmann.
Et oui, donc elle ne va pas s'imposer aujourd'hui sur cette descente, Lindsey Vonn, mais on a vécu avec grande attention cette descente de la star américaine avec vous. Donc elle n'est pas aux commandes, Lindsey Vonn. On va continuer de suivre cette descente avec vous, Léna et Bastoun. Mais on est avec Marc Madiot dans les grandes gueules du sport. Marc, qui donc va passer la main, il ne sera plus manager général de la Groupama FDJ, cette équipe que tu as construite depuis près de 30 ans. Tu vas devenir président de la structure. Tiens, Pascal Duprat avait une question à te poser, Pascal, pour
oui,
Marc.
Pas davantage une question, je voudrais te faire une confidence. Je viens pas du même sport que toi, je suis plus jeune, un tout petit peu plus jeune que toi, mais pour autant tu m'as toujours beaucoup inspiré dans mon métier d'entraîneur, Marc, parce que je lis ce qui se dit aujourd'hui sur tous les réseaux, la presse. On dit de toi que t'as du cœur, que t'es un manager humain, mais on oublie que t'es un manager avec toute sa tête, un manager avec son corps, avec ses tripes, et franchement t'es un exemple. Donc le temps que j'ai encore envie d'entraîner, bah tu seras toujours un exemple, Marc. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait et merci pour ce que tu inspires.
Merci. Voilà.
Ouais, bah on est touché, et franchement Marc, bon voilà, on est évidemment en train de faire une interview un peu journalistique hein, mais on est tous un peu touchés franchement depuis qu'on a pris l'information parce qu'on a tous
des relations une relation un peu particulière avec Marc. Moi j'ai en 97 quand il fonde son équipe, son premier Paris-Roubaix, moi je suis dans la chambre de ses coureurs avec Marc, qui est complètement exalté, qui est un jeune directeur sportif, et j'ai ça en tête, et depuis je l'ai suivi depuis quasiment 30 ans, et c'est vrai qu'on s'attache à cette petite bête-là quand même, hein, parce que c'est quand même
trop spécial,
un sacré personnage. Marc, finalement, c'est un peu un soulagement pour toi. Quand on a joué la gagne sur le tour, quand on a eu un Thibaut Pinot, quand on a eu des Arnaud Démare, des mecs qui gagnaient des étapes, qui cartonnaient, que tu allais sur le Paris-Roubaix avec l'ambition de gagner, et qu'aujourd'hui tu te retrouves dans une situation plus compliquée où le rang de ta formation n'est plus vraiment le même, est-ce que ça, c'était pas devenu trop frustrant aussi pour toi?
Non, mais je pense qu'on vit tous par des périodes. J'ai eu ma période coureur, j'ai eu ma période patron d'équipe, et il est clair que sportivement, le moment présent est moins exaltant qu'il ne l'était il y a quelques années passées. J'ai vécu des moments intenses, et même s'il y en a encore, ils sont un peu plus clairsemés aujourd'hui en ce moment. Donc moi, j'ai envie de donner à l'équipe les moyens de revivre ce qu'elle a vécu il y a quelques années passées. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et puis quand je serai dans mon fauteuil à la retraite, si je vois encore mes couleurs ou la continuité de l'équipe performer, bah, ce sera une vraie fierté.
Merci Marc d'avoir été avec nous, Marc Madiot. Marc, il est pas mort hein, quand même. Arrêtez de ce que la
même chose.
Excusez ce délire. Il va arriver demain en studio, en grande forme. Il va nous écraser. Il va dire attendez, mais qu'est-ce que c'est? Il va comme d'habitude. Hein, il va commencer diesel et puis derrière il va se mettre en marche. Il va nous mettre les frissons et tout. Ça va être incroyable. On dira jamais l'intelligence artificielle.
Celui qui passera après Marc dans le briefing d'avant saison ou le briefing de l'étape du 14 juillet. Peut-être qu'il y a un peu d'étape. Faut qu'il commence à bosser maintenant.
Pour les championnats de France.
Marc, je pense que
tu donneras tes notes, Marc.
Jusqu'à la fin de sa vie, il viendra le 14 juillet pour dire. Vous savez ce que c'est le maillot.
En revanche, on veut pas de pub sur un maillot de champion de France. Il est à la FDJ.
Ça n'arrivera jamais. Possible, hein. On connaît Marc.
Ouais, hein. Ça.
Marc, on se retrouve demain dans les grandes gueules du sport.
Ouais, demain,
évidemment.
Amis,
merci d'avoir été avec nous ce matin. Et on a beaucoup de messages sur le WhatsApp, hein, sur les réseaux pour rendre hommage à Marc et à tout son travail, pour le remercier surtout. Il y a beaucoup de merci, comme tu l'as fait, Pascal, il y a quelques instants, pour remercier Marc pour tout ce qu'il a fait pour le cyclisme français. Il est toujours là, évidemment. Dans quelques instants, j'y crois pas, qui sera un petit peu réduit, mais évidemment, on a donné de la place à Marc Madiot. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Allez, les grandes gueules du sport, dans un instant, on ouvrira la porte du vestiaire. Est-ce qu'on peut être amis avec un concurrent, un adversaire? Il y aura plein de choses à dire. Mais d'abord, très rapidement, le j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport, j'y crois pas.
Kylian Mbappé fête ses 27 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Kiki. Il joue avec le Real Madrid ce soir face à Séville à 21h, 17e journée de Liga. Je crois qu'on dit plutôt le Kix, d'ailleurs. Je me suis trompé dans le surnom.
Le Kix.
Le Kix. S'il marque un but, ce soir, il égalera le record de Cristiano Ronaldo avec 59 buts en 2013. Hein, c'était sur une année civile. Donc, il égalera le record de buts sur une année civile sous le maillot merengue. J'y crois pas, les GG. Kylian Mbappé va devenir plus grand que Cristiano Ronaldo. Je ne parle pas en taille, évidemment. Fred Weiss.
En taille, non. non.
Christophe.
Non.
Pascal. Pascal.
Oui.
T'y crois ou pas?
Oui, j'y crois.
Jérôme.
Oui.
Pourquoi t'y crois, Jérôme?
Parce que il est déjà en train de. Il a tous les atouts pour ça. Kylian Mbappé est un joueur extraordinaire, bien que certains puissent critiquer certains passages de sa carrière. Il a l'aura, il a la tronche, il a ce charisme, il a cette intelligence, et dans les stats, il va y arriver très vite.
Mais il va gagner 6 Ligues des Champions.
Oui, il va gagner 6 Ligues des Champions, c'est ça?
Alors pour l'instant, il en a pas.
S'il reste au Real, il a plus de chances d'en gagner beaucoup. Et le s'il reste au Real,
ça leur arrive. S'il est dans la lignée de ce qu'il fait, et sur la, parce que là, il porte le Real à bout de bras, si on en comprend un peu ce que veut faire le Real, ça va finir par retourner dans le bon sens, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, il n'est pas impossible, dans le club dans lequel il est, qu'il soit un jour Ballon d'Or et qu'il gagne 5 ou 6 Champions League. Pour moi, c'est un peu plus probable que s'il jouait au RC Lens. J'ai rien contre l'RC Lens, mais là, dans la trajectoire, c'est quand même mieux.
Sur la probabilité, je suis d'accord. Sauf qu'on a quelqu'un qui a gagné 5 Ligues des Champions, qui a gagné 5 Ballons d'Or. À un moment, les stats, c'est bien, c'est magnifique. Et encore une fois, je suis pas en train de critiquer du tout la carrière de Kylian Mbappé, qui est un joueur fantastique. Sauf qu'à un moment, on juge les joueurs par leur performance individuelle.
Il est champion du monde.
Oui, il est champion du monde.
Cristiano, il est combien de
champions du monde? Il n'est pas champion du monde. Mais il a 5 Ligues des Champions.
Et ça compte quand même, non?
Oui, mais évidemment,
compte, champion du monde.
Évidemment,
c'est
ça compte.
Un mec qui, en plus,
mais moi, je pose la question.
Il y a quand même une marge entre les deux. Et puis, encore une fois, est-ce que Kylian Mbappé sera capable de
valeur? Est-ce que ça n'a pas plus de valeur d'être champion du monde alors qu'il a que 27 ans?
Disons qu'il a
que d'avoir gagné 5 ballons d'or. Non, mais je te pose cette question. Je voudrais savoir comment tu situes, toi, qui
idolâtre
les stars.
Mais
ça compte pour toi, les ballons d'or, par rapport à une Coupe du Monde?
Eh ben, si tu me laisses répondre, je vais te répondre sans aucun problème. Admettons qu'un titre de champion du monde, ça va être double. Donc, ça vaudrait deux Ligue des Champions et deux ballons d'or. Mais il lui reste quand même de la marge.
Aujourd'hui, c'est l'arithmétique, c'est un truc.
À un moment, t'as les statistiques individuelles et t'as les statistiques collectives. Alors oui, les champions du monde, et ça, c'est un truc qu'effectivement, Ronaldo n'a pas. Mais à un moment, la Ligue des Champions, l'hégémonie qu'il a eue, la durée de sa carrière, sa capacité
à faire en régularité.
Vous me faites de la peine.
Pourquoi tu dis vous?
Parce que aujourd'hui, quand on vous écoute, et toi et ton sport en êtes vraiment le symbole le plus éclatant.
Et toi,
c'est il n'y a plus que les chiffres qui comptent. Il n'y a plus que les chiffres qui comptent. C'est une histoire de mathématiques.
On pose une question pour un joueur
fou. Mais on s'en fout qu'il le rattrape dans la déjambe. Moi, c'est pas le foot que j'aime, c'est les romantismes, c'est Platini, c'est Cruyff, c'est Maradona, c'est Messi.
D'accord.
C'est pas de savoir s'il va avoir un ballon d'or ou un tuto de plus, s'il va avoir une meilleure statistique
Christophe.
Que les autres.
Donnez-lui
c'est pas
mandarine.
Le sport que j'aime.
Donnez-lui une mandarine.
Alors, gardez-le votre sport, là, j'en veux pas.
Je peux poser une question juste rapide. Est-il possible que de lui enlever les sodas et les mandarines le matin, parce que ça le rend complètement dingue?
Le mot de la fin, Pascal, rapidement.
Non, en fait, il faudrait quand même situer les choses. Il a marqué toute compétition confondue avec le Real et avec l'équipe de France 65 buts dans l'année. Vous rendez compte le chiffre dans une équipe en contreplaqué. Parce que le Real, cette année, comme la saison dernière, c'est une équipe en bois laqué. Franchement, il tient le Real Madrid à bout de bras. Cela dit, le Real Madrid, dans quelques années, ils vont rectifier le tir parce que c'est le plus grand club du monde. Donc, une fois qu'ils vont se mettre à jouer collectivement, il va empiler les titres, certainement, les ligues de champions. Le seul truc où, moi, je pense simplement où Mbappé, il faut qu'il rectifie, c'est pas qu'il nous donne des leçons sur la vie à nous tous, à son âge, à 27 ans. Voilà, faut qu'il s'inspire de Cristiano pour ça.
Fais attention à ce que tu dis, Pascal, quand même, parce que quand tu dis que le Real Madrid est une équipe en bois laqué, ça va être repris par tous les médias espagnols, il va y avoir des heures d'émissions sur toi.
Si. Mais qui est cet entraîneur?
Dis-moi, mais qu'est-ce que c'est la défense de la meilleure équipe du monde au Real Madrid?
Bien sûr. Allez, les grandes gueules du soir, on revient dans quelques instants. On va ouvrir la porte du vestiaire. Est-ce qu'on peut être amis et adversaires? Ah, tiens, ça va être intéressant. Vous allez parler d'anecdotes à nous raconter. Est-ce que la France est un pays de losers également? La fédé de la loose va venir. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.